Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Au programme, une heure de vadrouille pour voir comment va la vie ailleurs. Et on sera d'abord pas très loin du Vatican, à Rome, où se dresse désormais le plus grand temple mormon d'Europe. C'est un peu comme une cathédrale pour cette église très particulière venue d'Amérique. Le temple est consacré aujourd'hui même. La grand reporter Delphine Minoui, spécialiste du Proche-Orient, viendra nous raconter une histoire folle et magnifique. Comment de jeunes Syriens ont résisté à leur manière dans leur ville de Daraya en créant une gigantesque bibliothèque dans une cave. Et parce que ce serait bien qu'on ne parle pas des droits des femmes seulement le 8 mars, on va vous raconter quelques histoires aujourd'hui. Celle d'une nouvelle émission de télé-réalité au Kenya qui met en valeur la place des femmes en politique. Et il y a du boulot. Celle des footballeuses argentines qui réclament qu'enfin on leur permette de devenir professionnelles. Et puis on entendra des femmes incroyablement fortes dans un état du nord-est de l'Inde. Des femmes qui résistent à la violence endémique qui dure depuis des décennies. Dans sa bibliothèque à lui, Nicolas Caro nous fera découvrir un roman britannique, pas si jeune mais inédit en France. Et Joseph nous baladera dans des parcs de loisirs un peu partout dans le monde. Les carnets sont ouverts et on file d'abord à Rome. Les carnets vous emmènent maintenant en Italie, où aujourd'hui même un édifice incroyable est inauguré à Rome. Il s'agit du plus grand temple mormon d'Europe. Les adeptes de cette religion née au XIXe siècle aux États-Unis se revendiquent chrétiens, même s'ils ne sont ni protestants ni catholiques. Et ils ont donc décidé de s'installer pas très loin du Vatican, à Rome. C'est une première pour cette église des Saints des Derniers Jours, c'est son nom, qui compte ainsi conquérir la très catholique Italie. Notre correspondante Blandine Hugonnet a pu visiter en avant-première ce temple, qui est une sorte de cathédrale pour les mormons, le seul lieu où certains rites, comme le mariage ou le baptême, peuvent être célébrés. C'est une visite exceptionnelle, car à partir d'aujourd'hui, jour de sa consécration, le temple est interdit aux non-mormons. Reportage.
Il l'appelle la maison du Seigneur. Ces mots sont gravés en doré au-dessus de la porte du temple, un édifice ovale tout neuf avec une flèche qui culmine à 40 mètres de hauteur. Impossible de rater cette construction en granit blanc depuis la périphérie de Rome. Face à un centre commercial vieillot et très fréquenté, les mormons ont construit un centre religieux et culturel sur 6 hectares de terrain. Le temple de 3 étages, mais aussi une bibliothèque, un hôtel et des fontaines à débordement entourées d'oliviers centenaires.
Bienvenue à tous en ce jour très spécial.
Après 8 ans de travaux, deux des plus hauts dirigeants de l'église mormone sont venus exprès des États-Unis pour ce grand jour, Ronald Rasband et David Bednar, qui se font appeler les apôtres.
Regardez la beauté et la majesté de ce temple dans lequel nous allons entrer. Et je prie que vous puissiez vraiment y ressentir l'esprit de Jésus-Christ que nous célébrons ici.
Notre religion existe dans le monde entier. Nous avons plus de 16 millions de membres et nous sommes reconnus et établis dans 170 pays. Et notre projet, c'est que l'Église des Saints des Derniers Jours ait des temples sur la terre entière. Le temple est très sacré pour nous. Pas secret, mais sacré. C'est donc une signification particulière d'avoir désormais un nouveau temple ici, à Rome, la ville éternelle.
Lustres monumentaux en cristal, fauteuils en acajou, moquettes blanches immaculées, l'intérieur est digne de grands hôtels internationaux et ostensiblement luxueux. Absolument tout a été financé par les fidèles. C'est ce qu'assure ce responsable américain en costume cravate, l'uniforme des mormons.
Quand on lit l'Ancien Testament, ce sont les matériaux les plus précieux qui sont utilisés pour construire ce temple pour le Seigneur. On pense avoir fait de notre mieux pour respecter ça. Sur le coût total de nos temples, notre politique est de ne pas divulguer cette information. L'argent pour les temples vient d'une règle très simple, qui est que chaque membre donne un dixième de ses revenus annuels. Et voilà, ça paye les temples.
Si rien n'est trop beau pour ce temple, c'est qu'il est réservé aux sacrements les plus importants.
Dans cette salle, nous accomplissons les baptêmes. C'est notre premier sacrement.
Accompagné de sa femme, notre guide italien nous montre une pièce où trône un bassin en marbre pour le baptême par immersion. À l'étage au-dessus, la salle des scellements, le mariage pour l'éternité selon les mormons. Dans le hall d'entrée, une peinture représente le Christ apparaissant au jeune Joseph Smith, une scène censée s'être produite en 1830 près de New York et qui est l'acte fondateur de cette religion américaine. Juste à côté, un vitrail moderne des scènes de la Bible et une immense statue de Jésus. Pour les nouveaux voisins du Vatican, il s'agissait de se montrer à la hauteur des fresques de la chapelle Sixtine, car ce n'est pas un hasard si les Mormons ont décidé de s'installer ici, dans la capitale mondiale des catholiques, explique Alessandro Di Nicciacci. Il est le responsable de la communauté italienne.
Nous sommes absolument chrétiens. Notre nom, c'est Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc pour l'Italie, nous avons choisi de venir à Rome parce que c'est le berceau de la chrétienté et aussi parce qu'il ne pouvait pas manquer dans la ville éternelle notre temple qui représente l'éternité.
Un temple à Rome pour le symbole, mais aussi pour recruter de nouveaux membres en Italie. Le pays compte moins de 27 000 mormons. Et pour cela, les Américains ont même envoyé du renfort, comme cette étudiante en jupe mi-longue qui accueille les visiteurs avec un grand sourire.
Je m'appelle Sœur Racker, je viens du Texas aux États-Unis. Je suis missionnaire ici pour 18 mois. Nous aidons les gens à connaître l'évangile de Jésus-Christ. C'est la maison de Dieu, c'est la plus grande bénédiction du monde. C'est pour ça que je suis venue, pour aider les autres à ressentir l'amour de Dieu.
Mais pas sûr que cette jeune américaine réussisse à convaincre les Italiens résolument catholiques. De l'autre côté du Tibre, le fleuve de Rome, ce dimanche, les paroissiens se précipitent à la messe, à deux pas du Vatican. A priori, ils n'ont rien contre les mormons, mais de là à se laisser convertir.
On a bien construit une mosquée ici, alors pourquoi on n'accepterait pas l'église des mormons? En plus, je ne crois vraiment pas que ce soit une secte. Mais après, moi, quand il y a des témoins de Jéhovah qui sonnent chez moi, je dis j'ai ma religion, vous la vôtre, et je ferme la porte. Si on est catholique, on reste catholique.
Ce nouveau temple, le premier en Italie, est le plus grand d'Europe et le 162e dans le monde. Une pierre de plus dans la conquête des Mormons. Leur prochain temple en Europe sera construit à Lisbonne, au Portugal. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Blandine Hugonnet depuis Rome. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Les Mormons se lancent donc à la conquête de l'Italie. Comment le perçoivent les Italiens ? On sait que cette religion américaine est parfois soupçonnée d'être sectaire à cause de la rigidité morale qu'elle prône sans doute et puis aussi de son côté très prosélyte.
Ah, c'est vrai que comme la jeune Texane qu'on a entendue dans le reportage, tous les jeunes mormons américains deviennent à un moment missionnaires à l'étranger pour essayer de faire de nouveaux adeptes. Ça dure 18 mois pour les filles, 2 ans pour les garçons. Une volonté de recrutement qui peut effrayer, le fait que ces adeptes donnent de l'argent à l'église aussi. Certains pensent que les mormons sont archaïques et polygames. Le fondateur de cette église avait d'ailleurs une trentaine de femmes, mais la polygamie a été abandonnée il y a 130 ans déjà. Et donc l'église mormone est ici une église comme une autre. L'État italien a même signé un concordat avec les mormons en 2012. Ils ont donc un statut légal et jouissent des mêmes privilèges que l'Église catholique. Par exemple, un mariage mormon célébré en Italie est reconnu comme un mariage civil.
Ouais, je précise qu'en France, des inquiétudes s'étaient exprimées avant l'inauguration d'un grand temple au Chesnay en région parisienne il y a 2 ans. Mais là aussi, tout se passe tranquillement dans le respect de la laïcité et du pluralisme religieux. Et chez vous donc en Italie, au pays des catholiques, Blandine, de quel œil le Vatican voit-il ces mormons ?
Alors le Vatican a une position très claire sur le sujet. Les mormons ne sont pas des chrétiens, même si eux disent le contraire. En 2001, le baptême mormon a même été décrété invalide par le Saint-Siège parce qu'à l'inverse de toutes les religions chrétiennes reconnues, l'Église mormone ne croit pas en la Trinité, c'est-à-dire que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ne font qu'un, mais aussi parce qu'ils s'appuient sur le livre des mormons. C'est une sorte de Nouveau Testament écrit par leur prophète Joseph Smith au 19e siècle. Mais ça n'empêche pas qu'il existe de bonnes relations entre catholiques et mormons en Italie. Des représentants du Vatican ont d'ailleurs été invités à l'inauguration du temple aujourd'hui. Une délégation mormone avait même rencontré le pape François ici il y a 5 ans. Et c'est surtout dans le domaine humanitaire que des liens se sont créés ces dernières années en Italie pour aider les migrants ou les sinistrés d'un séisme. Les mormons ont pris l'habitude d'envoyer des milliers de dollars et des bénévoles aux organisations de l'Église catholique italienne.
Ouais, donc le prosélytisme des mormons n'inquiète pas le Vatican. Et cela malgré la désaffection des églises, la baisse du nombre de fidèles catholiques ?
C'est vrai que l'église mormone est en croissance constante ici. Le temple s'ajoute à une centaine de chapelles locales qui ont ouvert sur tout le territoire. Mais pour autant, le Vatican n'a pas grand-chose à craindre des mormons italiens. C'est l'analyse de Massimo Introvigné que j'ai interrogé. Ce spécialiste des mormons est le fondateur du Centre de recherche sur les nouvelles religions à Turin.
Dans un pays de 60 millions d'habitants, il y a 27 000 mormons. Mais 20% de ces 27 000 mormons sont des immigrés, ne sont même pas des italiennes. Donc pour l'Église catholique, Il n'y a pas un risque d'être submergé par des conversions au mormonisme. Et si l'Église catholique a perdu 15 ou 20 millions de pratiquants en Italie, dans les derniers 60 ans, la majorité de ceux qui ont abandonné l'Église catholique l'ont abandonné pour ne pratiquer aucune religion.
Et il faut ajouter à cela une série d'interdits imposés par l'Église mormone au quotidien qui risquent de ne pas plaire aux Italiens.
En Italie, le vin et le café sont de religion. Le thé et les cigarettes un peu moins, mais d'abandonner le vin et le café, ça fait problème. Donc je pense, oui, ceux qui sont prêts à embrasser les valeurs mormones demeureront une minorité.
Et oui, pas d'alcool, pas d'excitant, pas de soda, jeûner une fois par mois, voici quelques-unes des règles chez les mormons, dont les Italiens vont entendre un peu plus parler à partir d'aujourd'hui, jour de consécration de ce premier temple d'Italie ici à Rome.
Merci Blandine pour ces explications et puis pour cette visite du temple aussi qui, je le rappelle, n'est plus possible depuis aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
À suivre, comment certains jeunes Syriens ont résisté au régime de Damas sans armes, mais avec la culture, avec des livres. C'est l'objet d'un très beau documentaire diffusé ce soir. Son auteur est venu nous voir sur Europe 1.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est la Syrie qu'on évoque maintenant avec vous, Sophie Larmoyer.
Dans quelques jours, le 15 mars, ce sera le 8e anniversaire de la révolution syrienne et donc du début de la guerre qui a chassé des millions de Syriens de leur propre pays et fait sans doute entre 300 et 400 000 morts. Le contexte aujourd'hui, c'est la fin de l'État islamique dans le pays. Mais pour autant, quel est l'avenir de ces exilés qui ont fui les bombes du régime de Damas? Cette semaine, Delphine Minoui était de passage à Paris. Elle est venue nous voir à Europe 1, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient où elle a sans cesse voyagé et même vécu. Delphine Minoui signe un documentaire étonnant qui passera ce soir sur France 5. Il s'appelle Daraya, la bibliothèque sous les bombes. Une histoire dingue et magnifique qui se passe à Daraya, donc une ville qui est à une dizaine de kilomètres de Damas, une ville rebelle qui a subi le siège du régime entre 2012 et 2016 et où l'on découvre des jeunes de 20 ans. En voici un extrait, puis notre entretien avec Delphine Minoui.
On avait à peine 20 ans. Et on voulait la liberté. En 2012, l'armée syrienne nous a imposé un siège qui allait durer 4 ans. Mais on a refusé de s'enfuir. Certains se battaient avec des armes, nous, avec nos caméras. On voulait montrer le vrai visage de cette guerre. Pas l'image que Bachar al-Assad renvoyait au monde.
Alors ça, c'est un extrait de votre documentaire. Celui qu'on entend, c'est Shadi Matar, qui est au générique de votre film, hein, pas seulement parce qu'il est le narrateur, en fait vous en avez fait votre narrateur, mais aussi parce que c'est lui qui a tourné une partie des images.
Oui, une partie de ces images exceptionnelles d'un siège
complètement inédite, hein.
d'une ville voilà, qui s'est retrouvée confrontée à une muraille du silence, je dirais, puisque pendant 4 ans, on ne savait pas trop ce qui se passait à Daraya. On n'y avait pas accès et le régime voulait nous faire croire que ces gens qu'ils bombardaient au quotidien, c'était des terroristes à éradiquer à tout prix. Et ces jeunes-là, ils se sont dit, nous, on va prendre nos caméras, on va se filmer, on va documenter notre histoire pour offrir un autre récit qui va contredire le récit officiel du régime de Bachar al-Assad. Et ils sont partis dans plein d'initiatives, dont Shadi fait partie, tout à fait. Lui, il a filmé, et ses copains, qu'est-ce qu'ils ont fait en parallèle? Ils ont commencé à aller sauver des bouquins dans les décombres de la ville, dans les maisons bombardées, les maisons abandonnées.
C'est grâce aux images de Shadi qui mettait sur les réseaux sociaux que vous avez découvert cette activité rebelle, en quelque sorte, de ces jeunes pacifiques à l'intérieur de Daraya. Hein.
Le dilemme auquel je faisais face, c'est comment continuer à rendre visible l'invisible, comment continuer à raconter. C'était très important de continuer à raconter la Syrie, ce qui se passait entre d'un côté Damas, de l'autre côté Daesh, parler de cette troisième voie. Et c'est au hasard de discussions sur l'internet et de recherches que je suis tombée sur une photo de cette bibliothèque enfouie, clandestine, calfeutrée dans une cave de la ville de Daraya. Et cette bibliothèque, elle avait été à ce moment-là constituée par tous ces livres qu'ils avaient exhumés des décombres des maisons. 15 000 ouvrages en tout, c'est incroyable.
Ouais, alors justement, on va écouter un second extrait de votre documentaire sur cette incroyable idée qu'ils ont eue de rassembler des livres pour faire une bibliothèque cachée dans une cave.
Des livres, il y en avait partout. Dans les écoles, dans les maisons, dans les mosquées. Certains disaient, on a fait cette révolution pour construire quelque chose, pas pour détruire. Les copains ont déniché une cave.
un endroit sûr pour protéger les livres. Ils en avaient récolté 15 000 en un mois.
Alors on suit trois personnages en particulier, hein, trois copains, donc Shadi qui filme, dont vous parliez, il y a Ahmad, l'intello, et puis il y a Jihad, dit Joujou, qui est le débrouillard, dites-vous, en tout cas c'est un gars qui rigole tout le temps. Mais le livre est aussi un personnage très important du film, il a une place, il a un rôle dans cette révolte.
Oui, les livres sont leurs compagnons de résistance. Et cette bibliothèque, ce qui est incroyable, c'est que c'est le monde à portée de main, alors qu'ils sont complètement coupés du monde, qu'ils sont emmurés, qu'il y a très peu de connexion Internet. Et ce qui est fou, c'est que dans tous ces livres qu'ils découvrent et qu'ils sauvent, il y a de tout.
C'est très
éclectique. Il y a des pavés
hein.
de sciences politiques, ouais. il y a des ouvrages de sociologie, il y a des romans, il y a L'alchimiste de Paolo Coelho qui devient leur livre de référence, mais il y a également des manuels de développement personnel à l'américaine, comme Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, qui devient un peu comme un mantra, comment gérer son stress, comment s'organiser en équipe. Imaginez tout ça en pleine guerre, dans les
là-dessus.
Sous-sols de la ville de Daraya. Ils en font même en effet des conférences. Ceux qui n'ont pas le temps de lire, eh ben, ils vont écouter les copains qui leur racontent les livres à la place. Et moi, ce qui m'a fascinée dans leur histoire, c'est que, donc, pour l'essentiel, ce sont des activistes pacifistes, mais ils encouragent aussi les combattants anti-Assad à venir se réfugier dans la bibliothèque et à se ressourcer à travers la littérature.
Vous dites se réfugier, c'est vraiment, ce lieu devient vraiment un refuge où il se passe plein de choses.
C'est un refuge, c'est un échappatoire, ça devient leur université clandestine.
C'est ça.
Parce qu'au-delà des livres qu'ils vont lire, eh bien, ils organisent des conférences, ils prennent des cours de sociologie, ils regardent des films, ils prennent des cours d'anglais. Et en fait, ces livres et cette bibliothèque deviennent leurs armes d'instruction massive face à la dictature de la pensée unique et à la dictature de la violence, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'eux, ils sont en sous-sol, mais pendant ce temps, il y a le staccato des balles, il y a les bombardements, parfois 80 bombes au baril d'explosifs qui leur tombent sur la tête au quotidien.
Et d'ailleurs, Shadi filme un de ces bombardements en direct. Enfin, c'est incroyable, le baril tombe devant lui.
Il flirte avec la mort au quotidien, mais il ne cesse jamais de se raccrocher à la vie et de se raccrocher à l'humour, parce qu'ils sont également très drôles. Ce sont des jeunes, ils ont la vingtaine, ils se font des blagues. Ils créent même à un moment donné un magazine qui s'appelle Karkabé, ça veut dire le chaos en arabe. Donc c'est une forme d'autodérision pour se moquer d'eux-mêmes et de leurs conditions.
Ils inventent des horoscopes absolument délirants. Et c'est la vie que vous montrez, en fait, dans cette cave.
C'est la vie, l'espoir, le champ d'espoir et ces livres au quotidien qui les aident à tenir debout, qui les aident à aussi sombrer dans le désespoir et dans la radicalisation aussi, dans l'extrémisme.
Ça les sauve de tout ça. Et puis arrive le moment où il faut quitter Daraya, où il faut quitter la ville, parce que le régime a lancé un ultimatum. C'est l'heure du bilan pour eux. D'ailleurs, régulièrement, ils font des petits bilans tous les trois. Ça va être la fin de la bibliothèque de Daraya, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que ça a créé un lien très particulier, cette bibliothèque entre eux.
Un lien indéfectible, une véritable... Parce que ce documentaire, c'est aussi avant tout l'histoire d'une bande de copains. Ils se sont soudés, ils ont soudé leur amitié sous les bombes et à travers les livres. Et ces jeunes, imaginez la situation, ces catastrophiques, ils se sont battus pour leur ville pendant 4 ans. Et ils sont forcés de monter dans des bus sous le regard des soldats du régime. Ils sont délocalisés à 300 km au nord de chez eux, dans la province d'Idlib. Et dès le lendemain, ils décident de rebondir et l'un d'entre eux dit « Je vais créer un bibliobus et je vais faire la tournée des villages et je vais distribuer des bouquins aux femmes et aux enfants. »
Alors ils sont dispersés, hein. Vous dites qu'il y en a un qui est à Idlib qui fait ce bibliobus, il y en a deux autres qui sont en Turquie. Et il y a toujours le livre qui les relie à Istanbul, le QG de Shadi, ça, c'est une librairie où il déniche 1984 d'Orwell et où il s'empresse d'appeler Ahmad au téléphone qui est bloqué en Syrie pour lui lire un passage.
Oui, c'est comme s'ils vivaient en direct leur histoire, comme si leur histoire devenait presque un roman. Ils tournent les pages de ce livre, des livres qu'ils lisent, qu'ils s'échangent. Et depuis, ils ne cessent jamais de bouquiner, de se conseiller des références. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il faut savoir que ces jeunes, ils n'aimaient pas lire avant la révolution.
À part Ahmad l'intello.
Mais Shadi, les livres lui tombaient en permanence des mains. Et Shadi, que je continue à voir aujourd'hui à Istanbul où j'habite et où il habite aussi. Par exemple, il y a 2-3 jours, on s'est rencontrés dans un café en Turquie et il était en pleine lecture d'Istanbul de Orhan Pamuk, ce grand auteur turc qui a eu le prix Nobel. Il venait également de dévorer Les cerfs volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Et c'est fabuleux de voir qu'un jeune comme ça, finalement, s'est formé aussi intellectuellement au creux de la guerre et au pire de l'humanité.
C'est une révolution sans armes qu'ils font et les rêves de ces trois-là semblent intacts. Que font-ils aujourd'hui ?
Pour eux, ce qui est important, c'est de continuer à maintenir éveillé ce rêve de Daraya, le rêve de lendemain meilleur, le rêve d'une Syrie promise. Ils ont leur corps en Turquie, mais le cœur reste en Syrie. Et les uns comme les autres continuent à se battre. Alors à titre personnel aussi, ils sont dans la reconstruction. Shadi a subi opération sur opération à cause de sa main blessée, à cause de son œil. Mais Ahmad, par exemple, s'est installé à Gaziantep et il travaille pour des ONG, notamment, il est très féministe, il travaille pour des ONG qui aident les femmes syriennes à l'intérieur du pays. Jihad travaille également pour une association qui vient en aide aux casques blancs de la défense civile qui vont récupérer des personnes blessées sous les décombres quand il continue à y avoir des bombardements au nord de la Syrie, des bombardements russes et syriens.
Vous avez monté une cagnotte solidaire pour les aider dans leur projet ?
Oui, une cagnotte qui me tenait à cœur parce que des projets comme celui-ci, on ne peut pas s'en détacher, c'est impossible. C'est un lien que j'ai créé aussi avec eux et j'ai envie de continuer à les soutenir dans leurs idées, dans leurs rêves parce qu'ils en ont tous les jours, toutes les minutes. Et là, leur ambition, c'est de faire un livre qui rassemblerait toutes les photos de ce siège, de créer une exposition itinérante et de continuer à créer du lien à travers une plateforme sur l'Internet. Donc ça s'appelle Daraya Alive et c'est une cagnotte solidaire sur Litchi.
Voilà, vous retrouverez le lien de cette cagnotte dans le sommaire des carnets sur europe1.fr. Dans ce documentaire, on rit, on pleure, on s'attache à Shadi, Ahmad et Jihad. Daraya, la bibliothèque sous les bombes, c'est la résistance par la culture, par les livres, vous l'avez compris. Un film de Delphine Minoui, co-réalisé avec Bruno Joucla. Et avec les images de Shadi Matar, ne le ratez pas, il passe ce soir sur France 5 à 22h35.
Europe 1.
Encore une histoire dans un instant, peut-être vraie ou peut-être pas celle-là, mais peu importe, Nicolas Carreau arrive avec un roman britannique.
Europe 1, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
13h24, place à la littérature étrangère, Sophie Larmoyer avec l'ami Nicolas Carreau.
C'est une autre manière de raconter le monde, son monde, en écrivant des romans. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Et cette semaine, vous avez déniché un roman inédit en France, l'un des romans favoris de Georges Simenon, signé d'un Britannique.
Ouais, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure c'était le roman favori de Georges Simenon. Ça s'appelle « Une confession » chez Sonatine. L'auteur, c'est John Wainwright, à qui l'on doit aussi « Garde à vue », vous savez, qui a été adapté en film avec Michel Serrault. Ouais. « Une confession » commence comme un roman classique et sympathique sur la vie de couple dans les classes moyennes anglaises. C'est un journal, c'est un peu gris. Les états d'âme de John Duxbury, il a 50 ans, c'est un petit notable dans une petite ville. Il est directeur d'une imprimerie, il est marié, il a un fils qui dirige une imprimerie avec lui. Mais on ne peut pas dire qu'il respire la joie de vivre. Hein. Écoutez ce qu'il dit, ce qu'il écrit plutôt. « J'ai connu des moments de plaisir, de bonheur même, mais beaucoup plus de périodes d'une profonde tristesse. Quant au reste, médiocrité est, je crois, le mot qui s'impose. »
Mais ça ne va pas fort, John, quand même.
Non, pourtant c'est un type bien, un gentil. Tout ce qu'il demande, c'est d'être tranquille. Tout ce qu'il veut, c'est éviter les ennuis, les conflits. Mais ça, c'était sans compter sur sa femme qui les cherche, elle, les conflits, tout le temps. Un jour, elle fait une scène au restaurant où ils déjeunent en tête à tête. Elle appelle le directeur pour hurler au scandale parce que sa tasse à thé est légèrement ébréchée. John ne sait plus où se mettre. Il n'est pas d'accord avec sa femme, mais il est loyal en même temps. Ouais. Alors, il dit rien, mais il a sacrément honte.
Et il raconte ça dans son journal.
Oui, son quotidien, sa femme qui fait chambre à part, la gestion de l'imprimerie, il parle de son fils aussi. Il s'adresse à lui d'ailleurs. Il veut que Harry, donc son fils, connaisse toute la vérité.
La vérité à propos de quoi ?
À propos de la mort de sa femme notamment. Un jour, ils partent en week-end, histoire de tenter de relancer un peu le couple, sans trop d'espoir. Mais bon, lors d'une balade, sa femme tombe d'une falaise. Horreur ! C'était un accident. Mais quelques jours plus tard, l'un des clients de l'hôtel avec qui John justement a eu une altercation se présente à la police et affirme avoir vu John pousser sa femme du haut de la falaise. Un certain Harry Harker est chargé de l'enquête et il s'agit maintenant de savoir si oui ou non John a tué sa femme.
Enfin, si c'est John qui raconte l'histoire, il ne va pas se dénoncer.
Ben ça, vous verrez. Mais en fait, il n'y a pas que le journal de John. Le récit alterne entre le journal et d'autres manières de raconter, d'autres regards. Et justement, c'est ce mode de narration qui fait tout l'intérêt de ce roman. Arnaud Hofmarscher, l'éditeur du livre.
C'est ce qui fait l'intérêt de ce livre, cette structure un peu particulière entre le journal et le roman. Alors, ce qui est aujourd'hui la grande mode du narrateur non fiable qu'on trouve dans 80% des thrillers qui sont publiés aujourd'hui, c'est-à-dire que le narrateur qui ment un petit peu au lecteur. Là, on est 20 ans avant et on est toujours dans le doute. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il laisse des choses sous silence, etc. Cette espèce de doute et vraiment nous tient pendant tout le livre. Ça fait monter le suspense. Cette disposition particulière est vraiment riche de suspense.
Vous avez dit, Nicolas, que Simenon était fan de ce livre. Pourquoi n'arrive-t-il que maintenant en France ?
Bonne question, c'est étrange. C'est un des nombreux mystères de l'édition. En fait, Arnaud Hoffmarscher a découvert ce roman par hasard.
C'est une de ces drôles histoires de l'édition. C'est-à-dire qu'un soir, je retombe à la télé par hasard sur Garde à vue, le film de Claude Miller avec Lino Ventura et Michel Serrault. Et en le regardant pour la huitième fois, je me dis, tiens, le personnage de Michel Serrault est... vraiment un personnage que vous pourrez trouver dans les romans de Simenon. Ce notable, avec sa grande maison, ses soucis avec sa femme, etc. Je le trouve très simenonien. Voilà, bon, je me fais la réflexion. Et quand le film est fini, je m'intéresse à ce que j'avais jamais fait à mon scénariste. En fait, je vois qu'il est adapté d'un livre de John Wainwright, qui est paru à la série Noire. Et je regarde sur l'ordinateur qui est ce John Wainwright. Je vois que c'est un admirateur de Simenon. Donc je me dis, voilà. Effectivement, le personnage de Serrault, son côté très Simenon. Et je vois que Simenon adorait Wainwright, ce que je ne savais pas, et qu'il avait même fait une critique d'un de ses livres en disant que c'était un véritable chef-d'œuvre. Ce livre qui s'appelait Cul-de-sac, alors en anglais, n'avait jamais été publié en France. Et c'est donc celui qu'on publie là chez Sonatine.
Génial. C'est pas donc juste du hasard, c'est aussi du flair.
Absolument. Et heureusement, si vous aimez les bons romans de suspense, c'est pour vous. C'est magnifiquement écrit et très très bien construit.
Une confession donc de John Wainwright. Traduction ?
Traduction de Laurence Romance.
Merci Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
Miss President, c'est le nom d'une émission de télé-réalité au Kenya et ce sera la première des trois histoires qu'on va vous raconter sur la place des femmes dans la société. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est jusqu'à 14h et avec vous Sophie Larmoyer. On a pas mal parlé des femmes il y a deux jours pour 8 mars. Eh bien on continue dans les carnets.
Deux coups de projecteur sur la place des femmes dans le foot professionnel en Argentine. Ce sera dans quelques minutes et vous entendrez que c'est pas de la tarte. Et puis la place des femmes en politique au Kenya. Vaste défi là aussi, les préjugés sexistes sont bien installés. Mais ces dernières semaines, la télé-réalité s'en mêle. Une nouvelle émission Miss President a été lancée fin janvier sur une chaîne nationale. C'est un peu l'équivalent de la Star Academy version politique et c'est une première en Afrique. Elles sont 40 au départ. À la fin, une seule gagnera le titre de Miss President, élue pour ses capacités de leadership par les téléspectateurs, mais aussi par un jury de professionnels. L'objectif, c'est bien entendu de sensibiliser le grand public sur la place des femmes en politique. Reportage à Nairobi de Charlotte Simonard.
Would you vote for a female?
Voteriez-vous pour une femme présidente?
Think about it.
Pensez-y. Vous regardez Miss President, la première télé-réalité pour les dirigeantes kenyanes. Elles n'ont peur de rien et poursuivent une cause très noble, servir ce pays.
C'est le nouveau rendez-vous des téléspectateurs kenyans chaque mercredi soir sur KTN, l'une des principales chaînes privées du pays.
What's my vision? For Kenya, as Miss President.
Lors des premiers épisodes, les auditions s'enchaînent devant un jury de professionnels qui se renouvellent tout au long de la compétition, spécialistes de la communication, journalistes et même politiques. Les téléspectateurs découvrent ce jour-là Colette Akwana, avocate de formation.
Si vous aviez le pouvoir de devenir la présidente du Kenya, seriez-vous intéressé d'occuper ce poste ?
Bien sûr.
Pourquoi ? Pourquoi le seriez-vous ?
L'histoire me jugera en disant cela. Certains des meilleurs présidents du monde ont eu une formation de juriste.
Colette Akwana, mère de deux enfants, aime les défis. Issue d'une famille plutôt aisée, elle a parcouru le monde avant de vouloir changer les choses ici au Kenya.
J'ai vu une publicité pour Miss President. Ils cherchaient une femme dirigeante qui serait capable de mener ce pays plus loin. Et je me suis dit, mais c'est moi qui cherche. Quand on voit tout ce qui se passe au Kenya, il faut que les bonnes personnes puissent entrer dans cette sphère de décideurs et essayer d'influencer ce qui est fait. Pas forcément des politiciens ou quelqu'un d'une dynastie, juste une personne qui aime le Kenya et veut résoudre les problèmes que nous traversons.
Les candidates viennent de toutes les régions du pays. Poussées dans leur retranchement, elles vont devoir s'imposer, se démarquer du reste du groupe. Martin Munoz est l'un des producteurs de l'émission.
Ici à l'académie, elles suivent des formations chaque matin et ensuite, l'après-midi, elles ont des tâches à réaliser en groupe. C'est là qu'on juge leur capacité d'interagir avec les autres, de prendre la direction d'un groupe, etc. Car n'importe quel dirigeant doit établir des stratégies, régler des problèmes en travaillant en groupe.
Colette Akwana repousse chaque jour ses limites.
Les questions sont difficiles, elles vous forcent à développer votre pensée, votre capacité à vous exprimer et expliquer votre raisonnement face à un problème. Si vous n'y arrivez pas, c'est fini pour vous.
C'est ainsi qu'à l'issue de chaque émission, plusieurs candidates sont éliminées.
Nous sommes désolés de vous dire que vous n'avez pas été retenues pour la prochaine étape. Mais nous vous félicitons et sommes persuadés que vous allez avoir un grand impact dans votre communauté.
Parmi celles qui se démarquent, il y a Edith Arvitalis, la trentaine, ouvertement féministe. Entre deux tournages, elle vient se ressourcer ici à Kibera, le plus grand bidonville du pays où elle a grandi.
Kibera est une société très patriarcale. Vivre ici en tant que jeune femme qui parle de sujets tabous, c'est un vrai défi. La plupart du temps, je mets ma vie en danger. La société devrait enfin accepter les femmes, surtout les jeunes femmes, et comprendre qu'elles peuvent être des dirigeants et les regarder différemment.
Depuis que les habitants du quartier la regardent à la télévision, les choses changent pour la féministe.
Depuis que l'on me voit dans l'émission, j'ai gagné beaucoup de respect. Tout le monde me regarde et veut me dire bonjour parce que je participe à Miss President. Je suis très heureuse et reconnaissante pour cela.
L'émission Miss President est une occasion inespérée pour les Kenyanes de s'imposer en politique. Le pays est un mauvais élève en la matière sur le continent. Seuls 20% des élus sont des femmes, mais l'espoir est permis que peut-être un jour, une présidente changera enfin les choses au Kenya. Colette et Editar, elles, y croient. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Et à Nairobi, on y reste encore un peu pour demander quelques précisions à Charlotte Simonard qui est en ligne avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour Sophie.
Un élu sur cinq est une femme au Kenya, dites-vous. C'est une proportion faible sur le continent. Comment l'expliquer ?
Alors le Kenya est une société très patriarcale. Par exemple, les candidats aux élections sont d'abord sélectionnés par les anciens de chaque tribu, donc ils sont toujours des hommes, et ils désignent très rarement des femmes. Alors il y a aussi un facteur financier, ça coûte très cher de faire de la politique au Kenya, il faut payer les affiches, les meetings et aussi les pots de vin, Sophie. Or, le revenu moyen des femmes kenyanes est d'un tiers inférieur à celui des hommes. Et de plus, les femmes ont un accès limité au crédit bancaire et donc sans appui financier, aucune chance de se lancer en politique.
L'idée, j'imagine, c'est que de nouveaux talents soient découverts grâce à cette émission Miss President.
Exactement. Les producteurs espèrent que des candidates intégreront ensuite les partis politiques. C'est l'objectif assumé d'Editar, la candidate féministe qu'on entend dans le reportage. Elle veut déjà se présenter aux élections législatives de 2022. Alors, en revanche, Colette, l'autre candidate, préférerait intégrer de grandes institutions internationales et jouer plutôt un rôle d'influenceuse dans la sphère politique.
Comment se passe la compétition entre les candidates ?
Eh bien Sophie, ça se passe comme en politique ici, il y a malheureusement des tensions ethniques. Il faut comprendre que faire de la politique au Kenya, c'est davantage représenter sa tribu que défendre un programme. Alors les électeurs votent avant tout pour un membre de leur communauté. C'est d'ailleurs un problème récurrent sur le continent africain. Colette m'a confié que les candidates s'entraidaient dans les coulisses en fonction de leur appartenance ethnique et rejetaient celles qui n'en font pas partie. La production en est consciente, elle a pris soin de ne jamais évoquer la tribu des candidates, mais il est très facile de le deviner en fonction de leur village d'origine et de leur nom. Et bien sûr, ça peut influencer le vote du public.
Et voilà, quand une mauvaise habitude touche à égalité les hommes et les femmes. La finale, c'est quand ?
C'est en juillet, donc ça dure longtemps.
Merci Charlotte, à bientôt.
À bientôt.
Et c'est le moment de parler football dans les carnets, foot féminin. Vous savez que depuis jeudi, vous pouvez acheter des billets à l'unité pour la Coupe du monde de foot féminin qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. Plus de 500 000 billets ont déjà été vendus. Mais nous, on prend la direction de l'Argentine. Dans ce pays que beaucoup voient comme la Mecque du ballon rond, les femmes footballeuses ont beaucoup de mal à s'imposer. Le foot féminin y a statut de sport amateur uniquement et les joueuses, souvent victimes de machisme, ne peuvent pas faire carrière. Une injustice qui commence à en fatiguer certaines. Pour la première fois, des Argentines s'élèvent publiquement pour demander la professionnalisation du foot féminin. Écoutez ce reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
Il est 20h30. Comme chaque mercredi soir, les joueuses du club Atlanta, dans l'ouest de Buenos Aires, s'entraînent sur la pelouse. Difficile de distinguer les mouvements des joueuses sur ce terrain de foot, car le stade est plongé dans le noir. Le club, qui préférerait voir l'équipe féminine s'entraîner dans le gymnase, refuse de leur allumer la lumière.
Tu vois ? Elle s'entraîne sans lumière. Évidemment, ce n'est pas le cas pour les équipes masculines.
Mélina Keller est commentatrice pour les matchs d'Atlanta. Cette passionnée de foot rêve de voir un jour les joueuses bénéficier des mêmes conditions que l'équipe masculine.
J'ai pris la décision personnelle et politique de leur donner l'attention qu'elles méritent. On a commencé récemment à diffuser tous les matchs de l'équipe féminine sur Internet. Ce serait génial d'avoir le soutien de l'équipe masculine, qu'ils viennent voir jouer les filles un jour. Mais honnêtement, ils ne les écoutent pas, ils ne les voient pas, ils s'en fichent complètement.
Sur le terrain, Sofia Giannini s'élance après la balle. Cette joueuse de 21 ans a de l'énergie à revendre malgré un emploi du temps très chargé.
Je fais des études de kiné. Je m'entraîne 3 soirs par semaine au foot et puis je vais à la salle de sport du lundi au vendredi. J'adorerais me dédier entièrement au foot et vivre de ça en Argentine. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Alors mon objectif, c'est de partir jouer à l'étranger et de me dédier au football car c'est ça ce que j'aime le plus au monde.
Partir, c'est le seul moyen pour ces joueuses d'espérer faire carrière dans le foot. Mais aujourd'hui, certaines ont décidé de se rebeller contre le machisme ambiant qui les empêche de vivre à fond leur passion. Macarena Sanchez incarne cette lutte pour la professionnalisation du foot féminin. Après avoir passé 7 ans au Guayurquiza, meilleure équipe féminine du pays, cette joueuse de 27 ans a été renvoyée en janvier.
J'étais en vacances et le directeur technique m'a appelée pour me dire qu'il m'écartait du club. Ils m'ont juste dit que c'était un choix footballistique. Ça intervient en plein milieu de saison, donc je ne peux pas trouver un autre club où jouer. Évidemment, ça m'a angoissée et ça m'a rendue triste parce que je ne m'y attendais pas. Et puis je ne savais pas ce qu'allait devenir ma carrière sportive.
C'est une première, Macarena attaque en justice son club et la Fédération Argentine de Football. Elle réclame une indemnisation, mais ce qu'elle veut surtout, c'est la fin de l'hypocrisie du système. Comme beaucoup d'autres joueuses de haut niveau, Macarena bénéficiait d'un emploi administratif au sein de son club, une manière détournée de la rémunérer pour qu'elle puisse s'entraîner régulièrement.
Beaucoup de clubs font ça. C'est une manière de dissimuler notre vrai travail de footballeuse. C'est difficile de dénoncer ce système quand on est au sein du club, car on fait face à une hiérarchie puissante et on n'a pas de syndicat qui nous protège. Avoir été licencié, ça me permet de le faire aujourd'hui, de demander la professionnalisation du football.
L'action en justice de Macarena a un retentissement médiatique inédit dans le pays. Angela Lerena est une journaliste sportive très reconnue, l'une des rares femmes à avoir fait sa place dans cet univers très masculin. Elle estime que le milieu du foot argentin est sur le point de connaître une révolution.
Ce qu'a fait Macarena Sanchez est historique. Si la justice lui donne raison et prouve que le club entretenait avec elle une relation professionnelle déguisée, on reconnaîtrait que Macarena était bien une footballeuse professionnelle. Ce serait une première en Argentine. Et alors la Fédération argentine pourrait décider d'autoriser les clubs qui le souhaitent à rémunérer leurs joueuses.
Pour Angela, les médias argentins ont aussi leur part de responsabilité dans cette petite révolution, à eux de diffuser davantage de matchs féminins. Actuellement, la plupart des rencontres de première division ne sont pas retransmises à la télé. À Buenos Aires, Aude-Villiers-Moriamé pour Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Aude-Villiers-Moriamé pour avoir quelques précisions. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
Alors on a bien compris que les footballeuses argentines veulent être reconnues au même titre que les hommes, mais pourquoi ça bouge maintenant chez les filles au crampon ?
En fait, depuis quelques années, depuis 2015 pour être précise, l'Argentine connaît un élan féministe très important. Tout est parti d'un mouvement de mobilisation contre les violences faites aux femmes, un mouvement qui s'appelle Ni una menos, pas une de moins. Il a pris énormément d'ampleur et petit à petit, les revendications se sont étendues à d'autres questions. Le 8 mars 2018, l'an dernier, des milliers de femmes ont par exemple fait grève pour dénoncer les inégalités de salaire dans le pays. L'année dernière encore, l'Argentine a connu une immense mobilisation pour la légalisation de l'avortement. Bon, la loi n'est pas passée, mais on n'avait jamais vu autant de femmes dans la rue pour défendre ce droit à l'IVG. Bref, la révolution des footballeuses s'inscrit dans ce courant féministe. Les Argentines en ont assez des discriminations et des inégalités de traitement qui sont une réalité dans la société et elles le font savoir. Au-delà de l'action en justice de Macarena Sanchez dont on a parlé, il y a effectivement du changement dans l'air dans le milieu du sport. L'an dernier, par exemple, pour la première fois, une femme a été nommée présidente d'un club masculin de première division.
Ouais, mais on comprend qu'il reste quand même pas mal de boulot. Aude, est-ce qu'en Amérique latine en général, les femmes ont du mal à s'imposer dans le milieu du foot ?
Alors c'est assez inégal dans la région, la plupart des pays sont dans le cas de l'Argentine, mais certains commencent tout de même à avoir des équipes féminines pro, c'est le cas de la Colombie et du Mexique par exemple, où les femmes peuvent jouer professionnellement depuis 2017. Les footballeuses peuvent aussi obtenir des contrats au Chili ou encore au Brésil, autre grand pays de footeux de la région, même si dans ce pays, comme partout bien sûr, les écarts de salaire entre les joueurs et les joueuses restent absolument colossaux. En première division, le salaire d'un homme est jusqu'à 5 fois plus élevé que celui d'une femme. On est encore loin donc du modèle des États-Unis qui ne cesse d'attirer les joueuses internationales avec des contrats alléchants. Bref, tout cela crée donc de grandes disparités de niveau entre les pays, ce qu'on aura sans doute l'occasion de constater lors de la Coupe du Monde 2019 qui va se jouer en France en juin et en juillet. L'équipe argentine part clairement avec un handicap, surtout que dans son groupe, il y a des équipes pro de haut niveau comme le Japon ou l'Angleterre.
En tout cas, le jour où une fille sera payée 3 millions par mois comme Neymar, on se rappelle, hein, Aude. Je rappelle que vous nous parliez de Buenos Aires. Merci, à bientôt.
À bientôt, Sophie. Europe 1.
Et c'est en Inde qu'on va aller rencontrer d'autres femmes, des veuves qui font face à une violence endémique dans leur petit état et qui résistent de façon remarquable.
Europe 1, les carnets du monde.
Et maintenant, à 13h44, Sophie Larmoyer, on prend la direction de l'Inde.
Nous sommes dans un petit état du Nord-Est rattaché à l'Inde au début des années 50. Une région qui, depuis des décennies, vit un conflit oublié entre des unités paramilitaires indiennes et divers groupes ethniques. Les civils en sont victimes, et en particulier les femmes, qui ont là-bas une longue histoire de résistance contre la violence armée. Elles se sont organisées en réseau pour se protéger et faire entendre leurs revendications. On va en rencontrer quelques-unes. C'est un reportage de Margot Ben.
Au fond d'un jardin bordé de fleurs sous un abri en bois, une dizaine de femmes s'affairent à leur machine à tisser. Toutes ont perdu un proche, souvent un fils ou un mari, dans le conflit oublié qui déchire le Manipur, cet état à l'extrême nord-est de l'Inde, aux confins de la Birmanie. Le Manipur est aux prises avec une insurrection contre l'État indien, mêlée à un conflit ethnique qui dure depuis des dizaines d'années. Les forces armées indiennes et leurs milices sont elles aussi responsables d'exactions. En tout, 20 000 femmes seraient aujourd'hui veuves à cause de cette violence. Depuis sa création, il y a environ 10 ans, l'ONG a aidé des milliers de femmes, de plus de 300 villages. Parmi elles, Mumtaz, qui a perdu son mari en 2009. Il aurait été tué par une milice pro-gouvernementale, connue ici sous le nom de Brigade de la Mort.
Quand je suis arrivée, je n'avais rien, j'étais triste, j'étais seule avec mes enfants et je ne savais pas ce que j'allais devenir. Mais très vite, j'ai montré que j'étais prête à travailler, l'organisation m'a ouvert un compte en banque et pour la première fois de ma vie, j'ai gagné de l'argent. Alors j'ai pu envoyer tous mes enfants à l'école, le plus âgé et même à l'université, c'est ma plus grande fierté.
Les exactions des groupes armés et les bavures des milices pro-gouvernementales restent souvent impunies. Alors, Mumtaz a créé un collectif de femmes qui luttent pour obtenir la justice.
Le matin, parfois je vais au commissariat pour m'occuper des plaintes. Et puis, un peu plus tard, je viens ici pour tisser. Le soir, je prends des cours d'initiation au droit. Et puis, la nuit, ce sont mes enfants qui viennent et qui m'aident à couper le tissu pour le lendemain.
Le collectif a réussi à déposer des milliers de plaintes.
La première fois que nous sommes allés au commissariat déposer plainte contre les milices, les policiers nous ont à peine regardés. Pire, ils accusaient nos maris d'avoir eux-mêmes été des criminels. Mais maintenant que plusieurs dossiers sont allés jusqu'à la Cour suprême, leur attitude a changé, ça se lit sur leur visage. Ils nous disent même « madame ».
Les femmes de Manipur ont une longue histoire de résistance. Dans les années 1930, déjà, elles protestaient contre le règne de l'Empire britannique. Plus récemment, en 2004, un groupe de femmes s'est rassemblé, entièrement nues, devant le quartier général d'une milice. C'était après le viol et le meurtre d'une jeune fille. Ngambi était à la tête du cortège. Cette grand-mère, de 70 ans aujourd'hui, est de toutes les manifestations. Elle est devenue une figure de la politique locale.
I am not smart.
Je ne suis pas très futée, mais je voulais leur parler directement. Je leur ai crié « Violez-nous, tuez-nous, nous sommes les dames de Manipur. La vie des femmes est précieuse. Si notre dignité est perdue, tout est perdu. »
Directement menacée, la fondatrice de l'ONG des survivantes de Manipur, Binalakshmi Nepram, a dû s'exiler l'an dernier. Cette lauréate de nombreux prix pour sa défense des droits des victimes habite maintenant à l'étranger. Alors, sur le terrain, c'est Rina Mutum qui s'occupe de tout.
Au début, on n'avait pas de bureau comme ici. On se rassemblait dans une petite cour et c'était beau de les voir assises ensemble. Et on voyait sur leur visage, elles se disaient « Je ne suis pas seule ».
Depuis 500 ans, les femmes de Manipur se rassemblent aussi sur l'immense marché du centre-ville. C'est le plus grand et le plus ancien marché au monde, géré entièrement par des femmes. C'est là que Mumtaz vend certains de ses foulards brodés.
J'ai lutté pour mes droits, j'ai vengé mon mari. Tout ça contre la volonté de ma famille. Finalement, c'est en perdant mon mari que je me suis libérée. Si tout ça ne s'était pas passé, je serais encore chez moi à faire la cuisine et je serais illettrée.
Au Manipur, la violence perdure. Mais en tissant, jour après jour, en exigeant que justice soit faite, les femmes du Manipur regagnent peu à peu le pouvoir et la force qui fait leur renommée. Dans le Manipur, en Inde, Margot Ben, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et Margot Ben est au bout de la ligne pour nous en dire un peu plus. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Quelle résistance, hein, quel combat de ces femmes du Manipur. Expliquez-nous un peu ce qui se passe dans cette région. Pourquoi toute cette violence?
Alors le Manipur, c'est un état du nord-est de l'Inde, à la frontière birmane. C'est vraiment une région magnifique, très verte, montagneuse et qui abrite le fameux lac Loktak, ouais, qui est parsemé d'îles flottantes. C'est le plus grand parc naturel flottant du monde. Pendant des siècles, c'était un état princier, indépendant, prospère. Mais en 1949, il a été annexé par l'Inde. C'est une annexion qui est contestée par des groupes séparatistes de différentes ethnies, maoïstes ou encore marxistes. Et ces groupes s'en prennent à l'armée indienne, mais se battent aussi entre eux, surtout pour des raisons ethniques et de territoire. En 1980, l'Inde a accordé à l'armée et à ses groupes paramilitaires des pouvoirs extrajudiciaires. Et aujourd'hui, des organisations comme Human Rights Watch dénoncent des exactions de tous bords. Alors, ce n'est pas la guerre ouverte tous les jours. La violence, elle n'est plus quotidienne, comme elle l'a pu être à une époque. Mais on sent vraiment la tension qui est toujours là. Des membres de milices pro-gouvernementales, qui n'ont pas franchement l'air très professionnels, patrouillent dans les rues tous les jours. Pendant les manifestations, il est conseillé de ne pas sortir de chez soi, parce qu'elles peuvent souvent devenir violentes. Un jour que j'étais au marché des femmes, par exemple, une petite marche pacifique a été violemment réprimée juste à côté.
Et comment expliquer que ces femmes de Manipur soient si militantes finalement ?
C'est vrai qu'elles sont connues pour être parmi les plus actives politiquement du pays. Et c'est sans doute un instinct de survie qui les mobilise. Tellement d'hommes sont morts à cause du conflit que leurs veuves ont été obligées de travailler, de manifester, de se protéger. Ouais. La manifestation de femmes nues à laquelle a participé Ngambi, la grand-mère qu'on a entendue dans le reportage, cette manif, elle a été télévisée, traduite en anglais, elle a été très commentée à l'époque. Ouais. Quant à Mumtaz, il faut vraiment se rendre compte qu'elle était quasiment illettrée, mariée très jeune, mère de 3 enfants. Et quelques années après avoir perdu son mari, elle a créé une association qui a fini par constituer 1528 dossiers judiciaires à ce jour. Wow. Parmi ceux-là, 62 ont abouti à des procédures judiciaires.
Ouais, chapeau bas hein, pour ces femmes remarquables. Et merci beaucoup Margot de nous avoir permis de les rencontrer. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Avant de se quitter, Sophie Lermoyer, avant de refermer les carnets, on fait le traditionnel petit détour par l'autistan en compagnie de Joseph Chovanec.
Voyageur, philosophe et autiste Asperger, Joseph Chovanec est notre guide pour regarder le monde autrement. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous passez souvent ici à Europe 1 avec une petite valise entre 2 voyages, 2 trains, 2 avions. Au point parfois, m'avez-vous dit que vous ne savez plus très bien où vous êtes ?
Oui, Sophie, ça arrive d'être un peu perdu en voyage, ouais, mais dans ce cas, c'est très simple. Il suffit d'observer les terrains dédiés aux loisirs et aux enfants, des jardins publics, ouais, et autres parcs d'attractions. C'est beaucoup mieux encore qu'un drapeau national pour s'orienter, parce que les gens ne s'amusent pas du tout de la même façon selon les cultures.
Concrètement, quels sont les détails qui vous permettent de vous repérer ?
Bon, passons déjà sur les cas simples ou triviaux. Hein, ouais. Quand sur le parking du terrain de loisirs, on voit non pas des voitures, mais des motoneiges, c'est qu'on est au Groenland sans doute. Hein. Mais le vrai critère, à mon avis, c'est de voir si l'entrée est payante, s'il faut payer à l'entrée. Et encore, pour chacune des attractions, le doute n'est pas permis. On est en Occident. Et à l'inverse, dans les pays de l'espace culturel soviétique, on a généralement gardé la gratuité. J'ai souvent été impressionné par les investissements que les parcs de loisirs ont dû exiger dans l'ex-bloc soviétique. Hein. C'était déjà les meilleurs emplacements qui étaient dévolus. Hein. à Khabarovsk, c'est une ville de l'extrême-orient russe où j'avais habité, j'avais été stupéfait de voir la taille de cette zone de loisirs et pour les familles en bord de fleuve, hein, l'amour hein, là-bas, et un emplacement qui en Occident aurait été bétonné par les promoteurs immobiliers pour des milliards. Hein. Et moi qui n'aime pas les foules, j'avais beaucoup apprécié la sérénité des gens qui y étaient. Hein. Mais on pourrait faire les mêmes remarques pour la plupart des villes de l'ex-URSS à Kiev, qui est une ville caractérisée par un panorama absolument dramatique du Dniepr. Hein. C'est le fleuve qui traverse l'Ukraine. Impossible de se tromper, c'est la grande île qui est consacrée au parc, hein, avec une station de métro dédiée, Hydropark. Hein. Un peu comme si à Paris, toute l'île de la cité était consacrée à un espace de loisirs. Et gratuit.
Ouais. Rien à voir, j'imagine, avec les parcs de la péninsule arabique où vous avez passé pas mal de temps ce début d'année. Il y en a ?
Ah oui, il y en a même beaucoup. Ah. Hein, si on accepte le cas particulier des zones touristiques type Dubaï. Hein. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas de ville ou de village en Oman, Arabie Saoudite et autres pays du coin sans son parc. Hein. Mm. Ah non, il ne s'agit pas d'un simple jardin public, hein, mais d'un vrai parc pour les familles, avec de nombreux équipements, pyramides, d'accord, murs d'escalade, et j'en passe. Hein. Ma petite ville préférée des déserts d'Arabie, à savoir à Ibri, où je passe l'hiver chaque année.
C'est un adoman.
Voilà, exactement. Ouais. Il y en a carrément plusieurs, hein, dont l'un sur le meilleur emplacement, à savoir la colline qui surplombe tout. Hein. Mm-hmm. Alors certes, on dira que c'est pour choyer les enfants, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. La présence visible, massive d'un tel équipement change le point de vue des adultes, change les priorités dans la vie et donne un autre cachet à toute l'agglomération urbaine. Je suis convaincu que si la ville de Khabarovsk, par exemple, vendait la zone de loisirs à des promoteurs immobiliers, il y aurait une explosion de la délinquance.
Joseph, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance particulier au parc d'attractions, au parc de loisirs ?
Sophie, plutôt un non-souvenir. Une fois durant mon enfance, mes parents m'avaient emmené visiter l'ancêtre de tous les parcs d'attractions, à savoir le jardin de Tivoli à Copenhague, qui a inspiré Disneyland d'ailleurs. Ouais. Mais 30 ans plus tard, en retournant à Copenhague, je ne me souvenais de plus rien, ni même de l'existence du parc. Mais par contre, le système de montage du hall de la gare centrale était toujours dans ma petite tête d'enfant autiste. Mais à présent, je regarde la larme à l'œil les parcs de loisirs et parfois ce vers de Pouchkine me revient à l'esprit. Le bonheur n'est pas de ce monde, mais la sérénité, la liberté le sont. Et peut-être que les lieux qui incarnent le mieux ce vers pourraient être les parcs de loisirs en Europe de l'Est.
Eh bien, merci Joseph pour cette balade à travers les parcs de loisirs du monde. Et on vous souhaite de savoir dénicher sérénité, liberté et bonheur.
Merci Sophie, à très bientôt.
À dimanche prochain.
Je suis Daniel.
Europe 1.
Merci d'avoir tourné avec nous les pages de ces carnets du monde. Un petit cadeau de fin, vous pouvez réécouter toutes les émissions, tous les reportages en podcast, c'est gratuit, sur l'application d'Europe 1 sur votre smartphone. Merci à Sophie Mallier qui réalise cette émission, Florence Jimalac qui m'a aidé à la préparer. La semaine prochaine, vous retrouverez Sophie Larmoyer. D'ici là, bon dimanche.